Dans Info 30 aujourd'hui, on vous propose un très beau son, un montage réalisé par Stéphanie Prien, sociologue à l'Université de Lille. Un montage intitulé « Un jour à Calais », une perspective sur la situation des migrants sur place. Avant d'écouter le son, qui fait une vingtaine de minutes, je vous propose d'entendre Stéphanie Prien, qui évoque avec nous par téléphone les conditions dans lesquelles elle a pu réaliser ce reportage.
Ces dernières années, je travaille sur le Venezuela et sur la crise migratoire vénézuélienne. J'ai à cette occasion monté des images et des sons. J'ai monté un film sur le Venezuela, sur mon parcours dans la crise vénézuélienne. Et j'ai aussi travaillé, donc c'est très récent, la question du son en faisant des montages sonores sur les routes de l'exil vénézuélien depuis la Colombie jusqu'à Santiago de Chili, sur les routes et les frontières de l'exil, entre Cúcuta, la frontière vénézuélienne-colombienne, et jusqu'à Santiago de Chili.
Alors là, dans le documentaire qu'on va écouter ensemble, on ne va pas aller du côté du Venezuela, on va parler d'une autre route de l'exil, c'est celle qui passe par Calais. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le documentaire qu'on va écouter dans un instant, et puis un peu dans quel contexte il a été réalisé?
Alors, je ne le nommerai peut-être pas documentaire. J'ai peut-être du mal avec ce terme-là qui viendrait dire que je donne des informations didactiques. C'est plutôt un montage sonore et une entrée dans une journée à Calais avec la clinique mobile de Médecins du Monde. C'est une réponse que j'ai faite à l'appel qui a été lancé par Médecins du Monde et le Secours catholique pour venir témoigner de l'indignité des conditions faites aux personnes exilées sur le territoire de Calais et de Grande-Synthe. Donc c'est un appel qui a été lancé en décembre, je pense, qui s'appelle Speak Out. On peut retrouver des informations sur la page Facebook de Médecins du Monde Hauts-de-France. Plusieurs personnes ont répondu à cet appel avec leurs envies ou leurs compétences ou leur manière ou leur langage plutôt, je dirais. Donc il y a eu Julie Drouel qui est photographe, il y a eu un dessinateur, il y a des étudiantes et étudiants de l'école de journalisme de Lille qui sont venus aussi avec la question de l'image et la question du langage journalistique. Il y a aussi Bertrand Versailles qui va aussi répondre à cet appel. Et moi, du coup, je les ai appelés en proposant de venir avec mon micro passer du temps avec eux et avec elle et eux. Et donc, ils m'ont accompagnée lors d'une clinique mobile le 4 février à Calais et lors d'une maraude à Grande-Synthe le lendemain, donc 2 jours. Je n'ai pas proposé de plan d'action, j'ai juste proposé de venir avec mon micro et de voir ce qui allait pouvoir émerger et ce que j'allais pouvoir donner à entendre et faire entrer dans des questions en train de se poser par des salariés et des bénévoles de Médecins du Monde ce jour-là.
Eh ben, on écoute ça ensemble, si tu veux bien.
Bon, monsieur, قداه انت ملي يعني جيت كنت بالجنجل موجود بالجنجل شحال انت
هسه
لا قبل 6 شهور
قبل 6 شهور انا وزوجي بالهنا تقريبا شهر 6
au mois de juin il est arrivé au mois de juin à la jungle في الجنجل
في الجنجل حتى 6 8 6 8
du mois de juin, il est resté jusqu'au mois d'août à la jungle, l'ancienne jungle qui était près de la gare routière. Et il est passé en Angleterre, mais ils l'ont déporté. Monsieur a été déporté, mais sa femme est restée en Angleterre. Donc là, il essaie de passer parce que sa femme est en Angleterre, ils sont séparés. Il vient d'avoir un petit bébé qui a un mois et demi et il ne l'a pas encore vu. Donc là, il doit retenter de passer. Mais hier, il a tenté de passer, mais ils ont fait naufrage. Le bateau a fait naufrage. Donc voilà. Et là, il retente jusqu'à temps qu'il puisse passer parce que en fait, le couple est séparé avec un enfant.
On va commencer doucement là, pour pas vous mettre en retard. Et puis, asseyez-vous, hein, si vous pouvez vous asseoir.
Moi, je suis bien debout.
Donc, je vais pouvoir commencer le brief. Donc, on est autour de 800 personnes actuellement toujours sur les mêmes sites, il n'y a pas de modification au niveau des lieux. Action juridique de la mairie de Calais, je vous avais informé qu'il y avait eu deux ponts qui avaient été évacués en centre-ville. Et il y a deux ponts où encore il restait du monde et qui n'avaient pas été évacués. Et donc il y a une audience donc, au tribunal administratif de Lille ce vendredi pour l'évacuation donc, des deux autres ponts. Solidarité internationale, avec qui on a travaillé par le passé, était présent la semaine dernière pour réactualiser donc, un diagnostic qu'ils avaient fait en septembre sur l'eau. Autre information, ça c'est si on vous en parle sur les campements, le corps d'un homme a été retrouvé en début de semaine dans le port de Calais.
Et là, tu vas à Calais et Grande-Synthe, t'es au pied du mur, quoi. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on empêche les gens de continuer leur voyage. C'est l'endroit où on bloque et où tout bloque. Les exilés sont bloqués, les habitants sont bloqués dans cette situation, les autorités sont bloquées, les acteurs associatifs sont bloqués. Tout le monde est en situation de blocage.
Et donc, pour le moment, il est au niveau de l'Institut médico-légal à Lille. Pour faire des recherches, pour savoir qui il est. Et donc, si jamais voilà, on vous en parle, nous, au niveau interassociatif, on n'a pas beaucoup d'informations sur... En fait, le corps est vraiment décomposé, a priori, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans l'eau. Et donc, ils ne savent pas, en fait, si c'est un exilé, si ça ne l'est pas. Après, la probabilité que ce soit un exilé, elle est grande. En fait, c'est surtout s'il y a des personnes qui signalent une disparition.
D'accord.
Si jamais il y a des exilés qui vous disent, ben voilà, j'étais avec un tel, j'ai plus de nouvelles. Voilà, sur les infos contexte. Sur l'organisation de la sortie, Alain et Edouard à l'accueil.
J'estime que à partir du moment où la vie n'a pas été trop difficile pour moi, j'estime que je le dois aux autres. Voilà. C'est une grande loterie, hein, la vie.
Marie et Christian en consultation. Et Christophe et Abdoul en médiation.
Je suis infirmière générale. Je travaille au bloc opératoire 15 ans. Ensuite, notre diplôme, j'ai un diplôme de kiné inséré. J'ai demandé pour valider mon diplôme. En France, ils refusent. Ils n'acceptent pas l'étranger. Ensuite, je suis bénévole avec Médecins du Monde, ça fait un an et demi. Le même programme avec le Croix Rouge. Je suis bénévole avec le Croix Rouge.
Au niveau de l'installation, donc Christophe sera responsable de sortie et puis un peu référent au niveau de l'installation.
Pourquoi j'ai choisi de m'engager ? Parce que j'ai du mal à comprendre qu'un état, enfin que ce pays-là dans lequel je vis, puisse être aussi répressif envers une population qui n'a rien demandé, quoi. Qui est là, et quand on voit les conditions dans lesquelles ils vivent, la petite pierre que j'apporte, bon, c'est pas grand chose, mais ça fera pas avancer énormément le problème. Mais c'est mieux que rien, quoi.
Sur le contexte sanitaire, on a des variants, de variants, a priori, qui circulent. Et donc, j'aimerais qu'on ne perde pas nos bonnes habitudes. Et puis aussi éviter voilà, les trop grands regroupements. Mais voilà, mais ce n'est pas forcément le cas à Fornulhet. Ça reste quand même assez espacé. Est-ce que vous aviez des questions, des choses qui n'étaient pas claires ?
Dans
dans 56 mètres au rond-point, prendre la quatrième sortie à 216 vers à 16 à 26. Fornuelen ne sera peut-être pas encore ouvert lorsque vous arriverez.
Tu vois, ça c'est une station essence. C'est quand même, on dirait un bunker en Ukraine. Ça c'est station essence totale. Putain de vache. J'ai traversé l'Ukraine de nuit. C'est exactement ça.
Au rond-point, ouais. Prendre la bretelle, puis continuer sur la 216.
Les gens, ils sont ici, ils existent, ils sont vivants, ils sont pas... Les gens n'ont pas disparu, quoi. Mais d'un seul coup, parce qu'il y a une visite de la préfecture ou parce qu'il y a une visite de Darmanin, bah on estime que bah non, Fornuelet, c'est beaucoup trop près du tunnel sous la Manche. Allez, on évacue et puis, maintenant, c'est un site interdit. C'est, encore une fois, c'est quelle est la réalité de la situation, quoi. Pourquoi les gens sont là et pourquoi on ne vient pas rencontrer ces gens et chercher des solutions adaptées pour chacun, pour chacune. On est vraiment dans une stratégie de pourrissement et on attend, c'est la stratégie d'épuisement dont parlait Gérard Collomb quand il est venu ici. Hein. Il avait dit, en 2017, il avait dit... Il s'agit de décourager les gens de venir à Calais. Donc ça fait 4 ans où tout va dans le sens de décourager, d'épuiser, de rendre impossible le désir de rejoindre le Royaume-Uni. Et on a une stratégie, une situation qui pourrit encore. Et plus ça pourrit, plus les gens sont en souffrance. Et... c'est une espèce de truc finalement non politique, quoi. C'est-à-dire que c'est une politique de aucune décision. C'est une politique de on laisse mourir, en fait, plus que pourrir. Mais
alors on le met où là?
Ouais, le thé, on va le mettre. Là, on fait l'accueil, la tente ici. Et ouais, le thé, on va le mettre là, Marie. On va la mettre ici. Parce que c'est tourné. Hein. Ouais. Est-ce qu'on met les parois? On va mettre les poids.
Alors, habituellement, on a beaucoup de problèmes, à Calais, hein, je parle, des problèmes de pieds, parce que souvent, ils marchent énormément. Quand ils partent en CAES, à chaque fois qu'ils sont expulsés, on leur propose un hébergement. Et on les emmène dans des centres assez loin, par exemple à Croisil, enfin beaucoup ici partent à Croisil. Et comme, bon, en général, il n'y a pas pour eux de projet de rester en France, etc. Donc au bout de 2-3 jours, ils s'en vont. Et on en a vu beaucoup qui reviennent à pied, tu vois, d'Arras à ici à pied. Et on en a vu beaucoup qui avaient des pieds épouvantables à cause de ça. Donc ça, beaucoup de problèmes de pieds. Sinon, en général, ce sont des gens en bonne santé. En bonne santé entre guillemets parce qu'ils sont jeunes, que pour arriver ici, si tu as déjà une pathologie avant, tu meurs sur la route, quoi. Donc voilà, ils sont bien abîmés, mais ils sont résistants, on va dire, sur le plan uniquement physique. Par contre, sur le plan moral, ils sont très éprouvés, quoi. Alors souvent, ils nous consultent pour des maux de tête, ça c'est typique. Où ils ont mal partout, où ils n'arrivent pas à dormir, où voilà. C'est souvent des motifs où il faut prendre un peu de temps, discuter avec eux, leur expliquer que leur corps fonctionne bien, mais que c'est l'environnement qui fait que c'est tout ça c'est insupportable pour un individu. Et après, il y a des traumatismes, on déplaît parce qu'ils essayent de passer sur les camions, quand ils essayent d'escalader les grillages, etc. Donc des plaies au niveau des mains. Après, il y a aussi, là en ce moment, j'en ai pas eu trop ces derniers temps, mais lié au quand les CRS, ils ont tendance à résister aux CRS, etc. Donc c'est les coups de matraque, etc. Voilà. Donc il y a ça, tout ce qui est traumatique.
Christophe, il y a déjà eu la distribution de repas, c'était les Anglais qui étaient là avant, non?
Il me semble, ouais. J'ai pas vraiment fait attention. Faudrait voir avec Marie, mais ouais, je pense. Mais ils reviennent après Utopia, revient cet après-midi.
Ah ouais.
Et donc là, on va fermer et puis on va les faire rentrer par ici. Okay.
Tu vois, là, tout à l'heure encore, je me disais, il y a... Nous, on est sur un réflexe, de solidarité ou d'assistance, mais qui est le nôtre, quoi. Et rarement, on se met rarement à la place des exilés, hein. On croit qu'on le fait, mais on ne le fait pas au sens où on ne peut pas le faire. Et de se retrouver en situation de survie, les priorités pour un exilé, ce n'est pas du tout celles que moi je définirais comme étant des priorités, quoi. Je suis sûr que si on faisait l'exercice un peu poussé, on est à côté de la plaque, quoi. Leurs enjeux ne sont pas ceux que nous on estime, quoi.
L'autre jour, j'ai eu un jeune Somalien qui parlait parfaitement bien français. Ça faisait 3 jours qu'il était là, mais il était assez... quand il m'a raconté là tout son parcours, sa mère était instite et c'est elle qui lui avait enseigné le français, l'anglais. Elle voulait vraiment une promotion pour son fils. Du coup, elle l'a encouragé à partir. Bon, et donc il venait de Somalie, donc il a fait toute l'Italie, enfin traversé la France, et il était ici avec vraiment beaucoup, il y avait la pêche, je trouvais, il dit non, je vais en Angleterre, donc il me demande, donc c'est à 30 km, ben, oui, ouais. Et il dit bah oui, je me suis renseigné pour passer par l'Eurotunnel, mais il paraît qu'au milieu du tunnel, il n'y a plus d'oxygène. Je l'ai trouvé, tu vois, très naïf dans son discours, et en même temps plein d'espoir, de projets. Bon. Je me suis dit, bon, je lui ai souhaité bonne chance et j'ai dit que j'espérais qu'elle allait passer en Angleterre. Après, bon, je ne sais pas très bien comment ils fonctionnent, s'ils ont déjà des passeurs déjà repérés. Peut-être qu'il avait un passeur, hein, j'en sais rien, mais c'était ce côté. Bah oui, je me suis renseignée, mais pour traverser le tunnel, après, au milieu, il n'y a plus d'oxygène. Je trouvais ça vraiment. Non, c'est vrai qu'on fait des rencontres surprenantes. Je suis assez admirative de ces gens qui ont vraiment tout ce qu'ils ont galéré là, pour arriver dans cette misère ici.
Je me suis engagée bénévolement parce que je suis demandeur d'asile. Et comme la procédure est un peu longue, pour ne pas s'encombrer à l'intérieur, il faut au moins venir prendre de l'air et puis tu as besoin de quelque chose. Il y a d'autres qui ont besoin des choses aussi avec toi. On t'aide, il faut aider aussi les autres s'il y a des occasions. Comme ça que je me suis présenté pour faire le bénévolat. Parce que j'ai déjà travaillé avec les humanitaires pour le compte de HCR au Tchad, les réfugiés soudanais, quoi. Donc je travaillais déjà là. Et si je vois des demandeurs d'asile comme moi, pourquoi pas les aider? J'ai le master en immunologie. Oui. Je fais ça à l'Université catholique au Cameroun. Oui. Mais on ne me donne pas une autorisation de travail. Moi, je suis là comme ça. Je ne dois pas rester là parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de moi. C'est pour ça que moi, je suis venu faire le bénévolat. Je ne fais pas seulement bénévolat au niveau des médecins du monde. Je fais aussi avec ces cours catholiques. Et moi, je suis donneur volontaire. Je dis, pourquoi pas, il y a des gens qui souffrent à l'hôpital. Il faut que je donne mon sang. Et j'ai une carte de donneur, l'autre donneur volontaire du sang. Parce que je suis biologiste, je suis de la santé. Il faut que je... Même s'ils ne veulent pas m'utiliser pour m'employer dans le sens où ils vont me payer l'argent, mais au moins, moi, je donne mon sang pour sauver des vies. Parce que c'est une chose qui est une bonne chose. Tu n'as pas besoin de récompense de personne. Mais Dieu voit. Il a le dernier mot.
On écoutait Un jour à Calais, donc un montage sonore que tu as réalisé, Stéphanie, dans le cadre de cet appel lancé par Médecins du Monde Hauts-de-France, un projet qui s'appelle Speak Out. Si Médecins du Monde a lancé cet appel, c'est qu'il y a besoin encore d'informer les gens sur ce qui se passe. Bon, après toutes ces années, on peut se dire quand même, les gens sont au courant ou devraient être au courant des conditions de vie des migrants là-bas. Il y a encore besoin de faire ce travail-là, selon toi ?
Alors, visiblement, oui. Alors, c'est un appel lancé par Médecins du Monde et le Secours catholique aussi. Les deux associations sont porteuses de cet appel. Donc oui, visiblement, les politiques ne changent pas, elles se répètent. Il y a comme une litanie, enfin comme une répétition, comme un enlisement dans la répétition de ces politiques faisant aux exilés des conditions de vie indignes. Et donc le souci, je pense, mais ça c'est eux qui pourraient y répondre, de Médecins du Monde et du Secours catholique, c'est d'interpeller encore et en mobilisant des regards et des langages différents pour soutenir leur plaidoyer, soutenir leur interpellation des politiques publiques pour qu'elles soient enfin à l'écoute des problématiques des personnes.
Tu parlais de langages différents parce que c'est vrai que le langage dominant sur cette question-là, c'est le langage médiatique et celui, on va dire, des médias dominants. Et forcément avec un certain regard et un peu déformant sur la situation, un regard un peu aussi déshumanisant parfois. Comment tu vois les choses, toi ?
Alors peut-être qu'il y a une forme de répétition aussi de la manière dont on parle de la situation, comme elle-même se répète, et que peut-être que le projet de Speak Out, c'est de venir introduire un peu des décalages, de venir mettre un peu en porte-à-faux, enfin de venir, enfin de faire entrer dans cette réalité-là par d'autres moyens qui peut-être poussent à l'action. Il y a le témoignage d'une de mes étudiantes qui a écouté le son et qui m'a dit demain je vais au centre pour la jeunesse pour demander à faire un service civique pour aider sur ces questions de l'exil, parce que ce son vient mettre en mouvement d'action. Et j'ai été extrêmement touchée par ce témoignage, parce que c'est un peu ça que j'ai aussi entendu, moi, sur place. Ce sont des personnes engagées à la fois de façon très ordinaire, enfin, très évidente. Il faut se mettre en mouvement, parce qu'il n'y a que ça qui va nous faire tenir face à ces situations indignes. C'est d'être dans le mouvement d'action et d'être dans ce mouvement de pensée aussi avec eux et avec elles. Donc, je pense que ça, c'est bon, une possibilité. Alors, elle est extrêmement... Ça reste un grain de sable, hein, mais c'est un grain de sable parmi d'autres grains de sable. C'est ce que dit d'ailleurs une des personnes bénévoles qui dit « ça ne va pas changer grand-chose, mais au moins je suis à l'endroit du mouvement, de l'action et de l'aide ». Et je voulais aussi ajouter qu'on n'entend pas la parole des exilés dans ce montage, parce que c'était pas l'endroit, c'était pas le moment d'aller demander aux personnes de témoigner elles-mêmes. Donc on entend plutôt les personnes qui sont engagées en train de faire avec, mais dans ces personnes, il y a aussi des personnes demandeuses d'asile, ça c'était aussi important de les faire entendre. Il y a le projet de la radio Border, alors Calais Border Broadcast, CBB Radio, qui est un projet porté par le Secours catholique, d'une radio faite avec et pour les exilés. Et je vous renvoie à la page Facebook aussi de CBB, Calais Border Broadcast, pour entendre aussi, alors c'est un enjeu d'informer, mais un enjeu aussi de créer des moments de micro ouvert où les personnes exilées à l'accueil de jour de Calais prennent la parole. Et si je fais un deuxième son dans cette série Speak Out, ce sera avec cette radio.
Dernière question, tu parlais de la répétition de la situation, de la fatigue aussi des humanitaires sur place. Est-ce que c'est pas un peu désespérant finalement, parce que ça fait 20 ans qu'on parle de cette situation qui ne change pas, qui parfois même empire. Cette fatigue, on l'entend aussi au travers de ce reportage. Comment tu vois les choses par rapport à ça?
Difficile de répondre parce que j'ai pas une vision d'ensemble. Je suis pas allée enquêter longuement sur ce sujet, mais j'ai entendu ces personnes. Et si elles sont épuisées, d'abord c'est parce qu'on les épuise, c'est-à-dire que ce sont des politiques qui ont pour visée explicite d'épuiser les personnes qui aident aussi, pas seulement les exilés, puisque les associations sont vraiment mises en difficulté pour simplement faire leur travail. Mais j'ai aussi, moi, rencontré des personnes exceptionnelles dans l'ordinaire, je dirais, dans l'ordinaire du geste de faire ensemble pour aider des personnes qui sont en grande difficulté et qui ont seulement le désir de passer une frontière et à qui on ne donne pas les moyens de faire ce geste que d'autres ont les moyens de faire. Enfin, donc il y a des inégalités dans les mobilités qui sont extrêmement fortes et qui sont extrêmement visibilisées là sur ce territoire. Donc je vois, oui, de l'épuisement, mais c'est un épuisement qui est produit par les politiques, mais je vois aussi énormément de générosité, de force dans les gestes très ordinaires aussi. Enfin, moi, je trouve cette tension très forte dans les témoignages de cette femme médecin à la retraite qui, évidemment, se met au travail, ou de cet ancien salarié de Carrefour à la retraite qui, évidemment, se met au travail.
Stéphanie Prien, sociologue à l'Université de Lille et donc réalisatrice de ce montage sonore intitulé « Un jour à Calais » dans le cadre du projet Speak Out. Retrouvez ce sujet ainsi que les liens utiles sur notre site radio-pfm.com. Info 30, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine édition, demain, 7h30, 12h30 et 18h. À plus.